France Inter. .fr.
Bonjour Jean Leprun.
Bonjour Claire.
Au programme de la marche de l'histoire aujourd'hui.
Eh ben, il y a 2 ans, à 75 ans, mourait Laurent Terzieff.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Laurent Terzieff.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé.
Les poings dans les poches crevés, mais les poings serrés sur une pierre philosophale qu'il s'agit de partager, la poésie. Sur la poésie, Terzieff n'entendait rien céder. Longtemps, il avait œuvré à la fois au cinéma et au théâtre. Il lui arrivait de tourner le jour, puis de jouer le soir, explorant les deux versants, la scène et l'écran. Il marchait sur une ligne de crête. Puis, il avait fait un choix. Comme à celle de la poésie, il croyait à la puissance du théâtre. À ses débuts, en 1958, au temps des Tricheurs, le public avait tout de suite eu le coup de foudre pour ce poulain superbe aux yeux verts. Il pensait s'être attaché à nouveau Gérard Philippe. Mais Terzieff était insaisissable. C'était un chercheur d'or qui se tenait à l'écart de la vie ordinaire. Il avait quitté l'habit de la vedette et finit par ressembler à l'homme qui marche, la statue de Giacometti, tout en angle, mais d'une douceur extrême, seul, mais avec tous. Jean-Pierre Siméon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes poète.
Oui.
Terzieff, c'était d'abord la poésie. Vous avez une devise. C'est le titre de votre dernier livre. La vie, je l'agrandis avec mon stylo. Ça aurait pu être la devise de Terzieff. Votre livre précédent, c'est ce que signifiait Laurent Terzieff. Vous avez un éditeur au nom prédestiné, d'ailleurs.
Les solitaires intempestifs.
Les solitaires intempestifs.
Oui, ça vient de Lagarce, ça.
Alors, vous l'avez connu dans les 12 dernières années de sa vie.
Exactement, oui. Je l'ai connu, en fait, quand j'étais très très jeune au Festival du Hôtelier de Poésie, déjà à travers la poésie, mais je l'ai connu sans le rencontrer vraiment, parce que j'étais trop impressionné, et je l'ai entendu dire Rilke, appuyé sur les murs du vieux monastère de Saint-Arcon, et c'était absolument fabuleux, quoi, vraiment. Déjà, j'avais une sorte de commotion à l'entendre, voilà. Et après, je l'ai re-rencontré pour de vrai, alors, à travers la poésie. Vous savez, c'était une figure tutélaire du Printemps des Poètes dont je m'occupe, un homme passionné de poésie, mais la rencontre s'est faite de son propre chef, puisque c'est lui qui m'a écrit. Et c'était avant même. Il m'a écrit un petit mot pour me parler d'un livre que j'avais écrit. Voilà.
Et le dernier spectacle de Terzieff, dont on entendra un extrait dans la fin de l'émission, c'est Philoctète d'après Sophocle, une pièce que vous avez réécrite. Vous avez passé les derniers mois de Terzieff dans une aventure commune. Alors donc, vous étiez très timide dans votre jeunesse, Jean-Pierre Siméon, comme Terzieff, qui pensait que l'art était une manière de guérir.
Sans doute. Vous savez, il a dit souvent, il a eu une enfance difficile, marquée par la guerre. Il a des souvenirs assez violents de cette période de guerre. Et il était un adolescent tourmenté, douloureux, souffrant. Et on le voit dans ses propres poèmes, ce qu'on peut lire dans Cahiers de vie, là, qui sont parus chez Gallimard il n'y a pas longtemps. Et on voit ses poèmes d'adolescence qui sont absolument noirs, torturés, mais qui manquent déjà un grand talent d'écriture.
Hein. Enfin, l'adolescence, en a-t-il eu? En tout cas, il s'est retrouvé assez vite sur les scènes, les petites scènes de la rive gauche. À l'époque, les géants habitaient de petits endroits.
Oui, alors
les géants s'appelaient
Céraud, Blin, etc. Hein, oui, et Barrault. Et effectivement, on sait qu'il a eu cette sorte de grande commotion quand il a vu la sonate des spectres de Strindberg. Et son rapport à sa relation avec Roger Blin était très forte, par exemple. Je crois qu'il lui a montré ses premiers poèmes et Roger Blin l'a encouragé. Il n'a pas toujours parlé avec une immense admiration de Roger Blin. Et ce qu'il admirait chez Roger Blin, c'était une éthique du théâtre déjà.
Oui, mais alors, il tape de toutes les expériences dès sa jeunesse. Il goûta peu à la télévision, mais il y avait interprété en 1957 le rôle de Weidmann, c'est le dernier condamné à mort, exécuté en public.
J'ai constaté que Milliard, mon ami intime, me trahissait dans ses interrogatoires en déclarant que je le faisais obéir par la terreur. J'ai décidé de ne plus me sacrifier.
Vous, les téléspectateurs, vous connaissent. Ils vous ont vu jouer l'affaire Weidmann.
Oui, c'est
ainsi que Marcel Carné vous a découvert, je crois.
En partie, oui.
En partie. Que font vos parents?
Sculpteur et peintre.
Et vous n'aviez pas envie d'être sculpteur ou peintre?
Si, si, j'avais bien envie, mais...
Mais?
Je ne suis pas arrivé.
Et si vous n'étiez pas comédien, qu'est-ce que vous auriez voulu être?
Eh bien, j'écrivais dans le temps, puis j'aurais bien aimé composer de la musique. Comme j'étais le seul à me comprendre, j'ai arrêté vite.
Et vous avez trouvé dans la comédie un moyen de vous exprimer?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous voudriez jouer alors? Enfin, le rôle de vos rêves, de...
Ben, dans l'immédiat, l'étudiant de la sonate des spectres.
Vous savez puis, ce que vous voulez.
De Strindberg. Et puis dans l'impossible, le roi Lear.
Le roi Lear, à plus tard, quand vous aurez une grande barbe.
Oh, vous savez, je crois que la barbe n'arrangerait rien.
Qu'est-ce que vous trouvez de plus important dans la vie?
C'est d'être conscient de soi-même par rapport à son époque. C'est très difficile.
Voyez, vous qui avez été intimidé par Terzieff, il l'était, lui, en 1958, par France Roche, à la télévision.
Oui, oui. Mais il était timide, hein, de toute façon. Pas du tout réservé, enfin, tenu dans ses relations avec les gens, très ouvert, très disponible, mais dans une sorte de, ouais, je sais pas, de quant à soi, comme ça.
En fait, de Shakespeare et de classique, il n'y en aura pas tant que ça. Et en 1958, Carnet l'embauche pour jouer dans Les Tricheurs. Alors, c'est le portrait collectif d'un groupe de jeunes gens, blasés, où font leur début Jacques Perrin, Jean-Paul Belmondo, Laurent Terzieff, donc, ici avec Jacques Charrier.
Je m'excuse, mais je dois vous demander 150 francs pour l'audition.
Oh, 150 francs, est-ce que j'ai une tête à posséder de telle somme?
C'est le règlement, un règlement que nos clients acceptent.
Bah, pas moi, c'est un abus. Et deux petits abus qui s'accumulent naissent les révolutions sanglantes.
Si ça peut vous arranger.
Bah, prenez, mademoiselle, prenez.
Nous venons de rencontrer le dernier mécène. Toi, t'as une mentalité qui me plaît. Et je te permets de m'offrir un verre.
L'édition spéciale, demandez l'édition spéciale.
Mais tire-toi, tu vois bien que personne n'en veut de ton édition.
Édition spéciale, demandez l'édition spéciale.
Et pour apprendre quoi? Qu'un croulant a fait un discours et qu'un autre croulant lui a répondu. Ils s'en foutent.
Quand vous le recevrez sur la gueule, leur machin à hydrogène, vous vous en foutrez aussi.
Justement, j'ai mieux avoir la surprise.
Et comme ça arrivera fatalement, c'est pas la peine qu'on s'emmerde avant.
Garçon de scotch.
Monsieur.
Un mécène, je l'avais bien dit. Qu'est-ce qu'il fait ton père?
Il est une usine.
Vous entendez?
Neutralité est bienveillante. Je passe mes examens, il me donne du fric, il fout la paix.
Mais t'as marre de tout? T'as une surboom tous les samedis et tu ne peux pas être dupe. C'est ça?
Exact.
Les grands mots qui ne veulent rien dire. T'as une bonne vie bien douillette, les petites études. Et on croit qu'on a le mal du siècle. Vous êtes tous comme ça dans le 16e.
C'est pas du tout un portrait de... Terzieff, Les Tricheurs. Alors, il est immédiatement célèbre après ce film. Des jeunes gens le reconnaissent devant un kiosque à journaux. Il achète le journal. Et les jeunes gens se moquent. Mais alors, vous lisez les journaux, monsieur Terzieff? Non seulement il lit les journaux, mais dans ces années de la guerre d'Algérie. Il signe, 1960, le manifeste des 121 qui appelle à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie.
Oui, vous savez, Laurent était un type extraordinairement engagé dans l'existence et dans tous les états de l'existence. C'était pas un être éthéré, fermé dans ses livres, etc. Moi, je l'ai connu, même à la fin de sa vie, très attentif à l'actualité, aux événements, etc. Et à la situation du monde, par exemple. Et quand il dit « je ne fais pas partie de la race des signeurs », mais quand il est sorti du bois pour signer, c'était des signatures très fortes, la guerre d'Algérie, l'Irak, etc. Je pense que c'était un homme profondément attaché à tout ce qui est le débat humain. Dans sa bibliothèque, il y avait plein de livres sur l'état du monde. Il lisait des bouquins sur le marxisme, sur le communisme, et pas seulement à cette période où il a effectivement été proche des communistes, mais même après. Et à côté de ça, effectivement, il lisait Claudel, Rilke, etc. C'était un homme qui prenait la vie par tous ses bouts et tous ses états.
Avant d'en venir à Claudel, qui voisine avec des que sais-je sur le marxisme dans sa bibliothèque, vous l'avez vu, il faut quand même dire que la guerre d'Algérie lui a laissé une blessure intime, parce que ce n'était pas un partisan du FLN, il était plus proche des messalistes, des autres indépendantistes, il n'a pas aimé ce qui est devenu l'Algérie. Et c'est peut-être ce qui a joué aussi sur le fait qu'après, ses engagements sont davantage en retrait.
Oui, sans doute. Ça, c'est vrai, je crois. Mais ce qu'il y a à dire, c'est qu'il ne voulait pas être donneur de leçons. Il ne voulait pas être celui qui, au nom de son art, dirait comment il faut penser. Il refusait tous les dogmatismes dans son art et dans la pensée en général. Et sa pensée était vive, mouvante. Et elle se démentait elle-même. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à mettre en examen ses propres jugements et ses propres partis pris.
Alors, à côté des livres de philosophie et des livres sur le marxisme, Claudel, donc. Alors, voilà, continuons la progression. chronologique, c'est pas une carrière, c'est une aventure. Il va jouer Claudel, et d'abord l'échange. C'est important pour un titre déjà, c'est que sa partenaire est Pascal de Boisson, qui va ensuite être sa complice.
Et bien sûr, et qui va être la compagne, plus que sa complice, la compagne de sa vie, bien sûr, mais la compagne de son art. Fondamentalement, c'est un couple extraordinaire de ce point de vue-là.
Oui, enfin, extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conjugalité.
Et ça, ce n'est pas mon affaire. Je crois qu'il y a une conjugalité d'esprit et d'âme qui vaut peut-être toutes les autres, non ?
Alors, elle va intervenir donc face à lui, dans une mise en scène de Guy Suarez, qui présente les différents personnages. Le personnage masculin presque principal, c'est Louis Laine, qui interprète Terzieff, qui va vendre sa femme à un riche capitaliste, Thomas Pollock-Nageoire.
Marthe est interprétée par Pascal de Boisson.
Pourquoi faire détruire ? Tout est vain contre la vie humble, ignorante, obstinée.
Louis Laine est interprété par Laurent Terzieff.
Oh, je voudrais être comme un crapaud dans le cresson quand brille la lune sereine. Je voudrais vivre dans l'eau profonde. Il n'y a pas besoin de parler, à quoi cela sert-il ? Comme un poisson, et je nagerai ayant tout le corps au même niveau. Oh, si tout à coup il m'éclatait des ailes ! Comme j'apprendrai à m'en servir, et confiant dans leur cours régulier, je volerai sur le gouffre de l'air. Je voudrais être un serpent dans l'épaisseur de l'herbe.
Avec Claudel, le verbe et le corps vont ensemble.
Oui, absolument.
C'est ce qu'il découvre.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire sur le plateau de théâtre, quand on entendait Terzieff, c'est qu'on voyait une langue investie par un corps. Une langue sensuelle, charnelle. Oui, lui était décharné, mais il savait mettre dans la langue toutes les nuances et même la sensualité. Et ça venait de cet extraordinaire pouvoir qu'il avait dans sa voix, n'est-ce pas ? Cette voix qui fait résonner toutes les nuances, qui fait résonner par scrupule aussi intellectuel, par scrupule artistique, mais qui fait résonner le moindre soupir dans la langue, le moindre silence. Et je crois qu'il y a chez lui une façon d'investir la langue par le corps, dans un engagement total du corps, qui faisait cette présence irradiante, qui faisait vibrer et sonner tout ce qui sortait de ses lèvres.
Claudel, c'est l'homme qui dit oui à l'ordre, mais oui au désordre. D'ailleurs, il va retrouver Claudel plus tard, dans Tête d'or. Une pièce que Claudel ne voulait pas livrer avant sa mort, parce que oui. C'est une pièce d'avant sa conversion,
oui.
Où les jeunes gens qui sont là disent oui au désordre.
Oui, mais moi je pense qu'on parle du rapport de Terzieff à Claudel, c'était magnifique, on sait bien que c'est un moment mythique qu'unit Terzieff dans Cébès et Tête d'or. Enfin, il y avait chez Terzieff, je crois, l'atout majeur pour être un comédien claudélien. C'est-à-dire, j'ai dit, cette extraordinaire présence dans la langue, cette façon de jouer avec le mouvement de la langue et le rythme, et de l'investir de toute l'intelligence possible, et en même temps, cette sensualité, je revendique de dire ça, il y avait une sensualité dans la façon dont Laurent, un lyrisme aussi, n'est-ce pas, évidemment, concret, dans la façon dont il s'emparait de la langue. Donc c'est tout ce qu'il faut pour Claudel.
Alors, Jacques Sigal, notre réalisateur, me dit, comment tu veux introduire Brigitte Bardot maintenant ? Eh bien, vous l'avez fait. Vous avez parlé de corps, vous avez parlé de sensualité. Et il faut dire que Terzieff, on le suit sur son fil acrobatique chronologique. C'est un funambule. Et la même année, il peut faire Tête d'or et le plus mauvais de ses films. Hein. Il a fait 50 films. Oui, mais attendez, c'était un film, on ne va pas dire l'auteur. On est en 1967 avec Brigitte Bardot.
Bon, je vais à Dame. T'es fichu. Ça y est, j'ai encore gagné.
Je sens que j'ai l'air ridicule. Je ne joue plus.
On s'en fout du ridicule. Allez, à toi de jouer.
D'accord. Alors, on joue aux fléchettes et c'est toi la cible.
Non !
Parfaitement.
Non !
Si, si, si.
Je refuse.
Tu vois, c'est très joli. Voilà. 100. 75.
Non.
30.
Arrête !
Les jeux de l'amour n'ont pas de limite.
Tu me paieras ça.
Comment expliquez-vous la relative contradiction qui existe chez vous entre la rigueur, le refus des concessions pour ce qui est du théâtre, et votre participation à certains films qui ne sont pas toujours très bons?
Au théâtre, je suis responsable de ce que je fais, c'est-à-dire que je suis à la base du projet, je suis metteur en scène, je suis animateur, je suis propulseur de texte, pourvoyeur de texte. Et évidemment, sur un certain plan, sur le plan des responsabilités, sur le plan donc de la rigueur, je me sens davantage concerné. Mais en tant qu'acteur, je ne suis pas responsable de l'état actuel du cinéma, qui est un peu malade, qui fait un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça que le cinéma, pour moi, en tant qu'acteur, est intéressant une fois sur 3 ou sur 10.
Après l'inusable France Roche, là, il répond à l'inoxydable Jean-Pierre Elkabbach et il lui dit « Chacun des arts a sa grandeur, le cinéma a sa grandeur ». Vous parliez de cinéma parfois avec lui.
Mais oui, bien sûr, je crois qu'il avait une immense estime pour des grands metteurs en scène comme Buñuel ou d'autres, n'est-ce pas ? Mais en même temps, par rapport au cinéma, je crois que simplement il y a une rivalité à un moment qui s'est opérée concrètement, une question de temps et d'énergie entre le cinéma et le théâtre, et tout l'a mené au théâtre. Il le dit, c'est un homme qui voulait construire, créer. En cela, il est peut-être le fils de ses parents, n'est-ce pas, créateur.
Et voilà. Mais attendez, on peut être réalisateur de cinéma, là on crée un point de vue. On dit aux spectateurs, puisque on a des yeux, c'est la caméra, on a des oreilles, c'est le micro, voilà, il faut regarder dans ce sens-là.
Eh ben, il aimait bien jouer à être acteur de temps en temps au cinéma, mais il voulait pas être metteur en scène, réalisateur de cinéma. Moi, je pense que parce qu'il avait besoin du concret. C'était un artisan, il aimait bien l'artisanat du théâtre, le concret. Parler avec le machiniste, faire les lumières dans l'instant même. Ce qui manquait peut-être, je crois, pour lui au cinéma, mais je parle comme ça, c'est pas moi qui ai la vérité, hein, il me semble. Ce qui lui manquait, c'était la présence réelle sur le plateau et la relation immédiate avec les acteurs autour, c'est-à-dire l'éclairagiste, celui qui fait les décors, etc. Et puis le public. Et ça, cet événement-là, sur le moment, dans la présence, la coprésence de tous les humains, ça, il ne le trouvait pas au cinéma.
Alors, il a quand même joué avec des metteurs en scène divers, toujours sur la ligne de crête, à la charnière de la vague classique qui allait descendre, Carnet, Clouzot, de la nouvelle vague qui montait à la charnière du cinéma français, du cinéma italien. Il a joué avec Pasolini. Très belle scène d'ailleurs, dans un film italien où il est assommé à coups de bâton sur une plage.
Prémonitoire, évidemment.
C'est à Ostie, oui. Et à 10 mètres
de l'endroit
où Pasolini va mourir.
Je voudrais devenir un de ceux-là qui passent dans la nuit sur des chevaux sauvages, laissant flotter au vent de leur galop la chevelure dénouée de leurs flambeaux. Je voudrais être comme en barque, à la proue et dressé grand tel qu'un drapeau déployé, sombre, mais casqué d'or changeant. Et en arrière, 10 hommes faits d'identiques ténèbres, avec des casques pareils aux miens, blancs comme vert ou sombres, vieux. Aveugle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Siméon qui publie aux solitaires intempestifs ce que signifiait Laurent Terzieff. Bach pour faire entendre Gérard Kos, Rilke pour entendre un autre Laurent Terzieff dont, disiez-vous, l'épine dorsale est la poésie.
Absolument, d'ailleurs, vous citiez mon bouquin « Ce que signifie Laurent Terzieff », ce petit texte-là qui dit ça pour moi. Hein, tout ce qui aimantait la vie de Laurent Terzieff, c'était la poésie. Il était profondément nourri. Chaque jour, il disait de la poésie. La poésie était évidemment son aliment premier. Et il était indépassable quand il disait des poèmes parce qu'il était nourri de la lecture de poèmes, parce qu'il était attentif à ce qu'elle porte d'essentielle vérité. Qui est une vérité. Vous savez, il disait, moi je suis au théâtre comme ailleurs, à la recherche de l'invisible dans le visible. Évidemment, la poésie est la voie pour ça. Alors, effectivement, moi je crois que on se trompe parfois, chez les grands artistes, on simplifie, c'est toujours plus complexe. Il récusait un peu le mystique, on fait de lui un mystique, etc. Souvent, c'est pas vrai, c'est autre chose. C'est cette aimantation vers la poésie qui signifie chez lui cette présence d'un d'un invisible, d'un au-delà, de ce qui est présent. Vous savez, ce qu'on cherche dans la poésie, c'est être présent à ce qui est plus grand que soi. Et c'est ce qu'il cherchait au théâtre, enfant. Et c'est ce qui déborde le réel immédiat. Et ça, il le trouvait dans la poésie, il a voulu en témoigner.
Ce que déborde le réel immédiat quand on entre dans une salle de théâtre, revenons au théâtre, si vous voulez bien. Jean-Pierre Siméon, c'est arrivé à Terzieff. La répétition n'est pas commencée, la salle est encore dans le noir, et puis le machiniste éclaire. Et puis, il arrive avec une chaise, une table, et alors, tout devient possible.
Oui, mais ces apparitions, ça, c'est la poésie. D'ailleurs, vous dites, on revient au théâtre, mais on ne l'a pas quitté, parce que pour lui, c'était clair, il n'est de théâtre que de poésie, disait-il. Il n'y a de théâtre que poétique. Et qu'est-ce que c'est que la poésie dont on parle ? Ce n'est pas forcément la langue de Claudel ou de tel autre ou de Rilke. C'est aussi une poétique générale. C'est une manière de faire advenir à travers la voix, à travers le corps, à travers l'espace et la sculpture de l'espace, de faire advenir cet invisible, cet au-delà irrationnel.
Ce n'est pas nécessairement Claudel ou Rilke. D'ailleurs, on l'imagine jouant les classiques. Il a refusé de faire Richard II à la fin de sa vie avec Patrice Chéreau. Il jouait plutôt des auteurs très près dans le temps, mais pas nécessairement très près dans l'espace de la France.
Oui, alors on sait que ses choix sont très originaux. Il a fait connaître, on sait bien, Chisgal et bien d'autres, Albi, etc., Saunders, mais aussi, pas seulement le monde anglo-saxon, c'est vrai aussi, il ne faut pas oublier qu'il a joué Semprin, qu'il a joué Mauriac, Claude Mauriac, etc. Il y avait une grande curiosité, en fait, un grand intérêt pour des écritures contemporaines, c'est vrai, mais ses choix sont toujours, je dirais, très personnels. Il y a chez lui la volonté de monter, ça je le crois parce qu'il me l'a dit, ce qui lui importe vraiment. C'est-à-dire, il n'y a aucune stratégie. Et vous savez, les risques qu'il prenait avec sa compagnie de théâtre, elle vivait difficilement, sa compagnie. D'ailleurs, s'il faisait du cinéma, je l'ai dit, et il l'a dit aussi d'ailleurs, s'il faisait du cinéma, c'était vraiment pour payer les frais de sa compagnie.
Il faut parler économie, il disait ça de temps en temps. Alors, on va voir comment ça fonctionnait, cette compagnie, à la lumière du fameux témoignage, au moment où il reçoit le Molière du meilleur comédien pour son avant-dernier spectacle, l'habilleur, il rencontre là la ferveur de la profession.
Je remercie profondément la profession. En particulier, ce que j'ai toujours senti près de moi, même et surtout dans les moments difficiles, dans ma recherche d'un théâtre qui s'efforce de refuser à la fois l'imposture intellectuelle et la facilité, dans mes tentatives de trouver un espace entre le divertissement pur et l'élitisme, j'ai toujours œuvré pour une mixité entre un certain théâtre privé, qu'on ne trouve d'ailleurs plus guère qu'à Paris, et l'aide publique dont je dispose en tant que compagnie indépendante. J'espère pouvoir continuer à le faire quelque temps encore, car le théâtre ne se laisse pas enfermer dans des clivages et des étiquettes. Il est avant tout projet de liberté, et encore une fois, le théâtre n'est pas ceci ou cela, mais ceci est cela.
Oui, parce que si on dirige une trop grande salle d'État, il y a la tutelle nécessairement qui met le nez dans vos comptes. Oui. Et il aimait bien le statut indépendant. Enfin, vous voyez, l'État lui donnait une subvention qu'il apportait au théâtre privé quand il... Oui. Proposait un spectacle.
Mais vous avez entendu comme le mot indépendant sonne dans sa bouche. Alors ça, c'était arrimé à sa vie, l'indépendance, le projet de liberté dont il parle. Donc il voulait se laisser enfermer dans aucune étiquette, aucune catégorie. Et le théâtre, l'idée du théâtre dont il parle, c'est une idée du théâtre vraiment cohérente et cohérente dans la durée. Elle excède toutes ces catégories. Il voulait simplement être conduit par l'idée d'offrir au public, parce qu'on ne parle pas c'est de ça, sa passion du public, son rapport au public, la volonté de partager, donc offrir au public ce qu'il croit essentiel dans la cité, c'est là qu'on retrouve l'engagement, ce qu'il croit essentiel dans la cité, c'est-à-dire amener à une plus pleine conscience du monde et de la réalité par l'acte artistique, par le théâtre.
Alors il disait, une nation n'existe pas, les Allemands sans Faust, les Anglais sans Shakespeare. Dans son répertoire, il y avait de la comédie contemporaine, mais... Il aimait maintenir le flambeau de la tragédie, la souffrance, même sans raison, et son dernier spectacle, auquel vous êtes étroitement mêlé, Philoctète. Nous sommes en 2009, ou plutôt nous sommes au début de la guerre de Troie. Les Grecs sont en route vers la ville, mais Philoctète est atteint d'une blessure inguérissable. Il dégage une odeur intolérable et les Grecs, dont Ulysse, décident de l'abandonner dans l'île de Lemnos.
Tu oses m'attacher, moi, le désarmé, boiteux, demi-mort, trompé, piégé comme un gibier, une proie sous ta dent. Il faut que tu sois le dernier des lâches pour te faire un bouclier de ce garçon, un innocent qui ne peut qu'obéir. Lui est de ma race, pas de la tienne. Et le voilà, perdu devant sa faute, pris de compassion, déchiré de remords. Je ne m'étonne plus de tes bassesses, toujours à tricoter tes ruses dans l'ombre, qui t'a fait agir contre lui-même, un enfant qui ne sait où est le vrai. Et quand je pense que c'est toi, toi qui m'as jeté mourant sur cette île, qui viens aujourd'hui me parler de devoir, 10 ans de ma vie à crever dans les pierres, tandis que toi et les Atrides, vous vous gobergez de douceur et de rire. Je vous vomis, tous, autant que vous êtes.
Avec Christian Scaretti, vous êtes mêlé de très près à cette aventure, parce que c'est vous qui avez tricoté, je reprends le, oui, le verbe, les vestiges de la pièce de Sophocle, il avait réécrit.
Oui, c'est une magnifique histoire. Hein. René Solis, dans Libé, a dit une chose, avait titré à propos de Philoctète. Ainsi, il disait Philoctète d'or. Et c'était une belle manière de raconter toute une histoire, puisque c'est 50 ans après, presque jour pour jour, après le grand tête d'or de l'Odéon, qui revient à l'Odéon pour jouer Philoctète. Et c'était une boucle qui se bouclait. Et moi, il me disait, Laurent, que là, il renouait, m'a dit, avec un théâtre de la poésie pure. Alors, je pense que s'il a déterminé à jouer Philoctète, c'est deux raisons. C'est Scaretti, parce qu'il considérait que c'était le metteur en scène d'aujourd'hui qui le convainquait le plus. C'était sans doute notre amitié à tous les deux et la poésie, parce qu'il trouvait dans ce texte la poésie. Il me disait, moi, je crois que je suis un comédien lyrique au fond, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il a joué il avait tous les talents, donc il pouvait jouer la comédie, il pouvait jouer du drame, etc. Mais il était absolument sublime là, dans cet apogée du théâtre, peut-être, qu'est la poésie, la langue qui sonne comme ça, dans une grande figure tragique, comme ça. Il était une épure du théâtre.
Alors vous vouliez jouer à Lemnos, cette île où Philoctète a été abandonné.
C'était un projet. On devait y aller dans l'été, oui, à la fameuse île de Lemnos, réinaugurer le théâtre antique qui n'avait pas été ouvert depuis des siècles et des siècles. Voilà.
Hélas, il y avait encore la flamme.
Il est parti sur une autre île.
Il n'y avait plus de bougies, c'était il y a 2 ans. Que Laurent Terzieff est mort, et c'est il y a 52 ans que, dans Tête d'or, face au grand déclamateur Alain Cuny, pour la réouverture de l'Odéon Théâtre de France, il interprétait la mort de Cébès.
Il y a plusieurs espèces d'hommes, les faibles et les forts, les malades et ceux qui se portent bien. J'ai pitié de... Toi, n'auras-tu pas pitié de moi aussi?
Penses-tu que je ne sois pas là?
Non, mais va, il ne s'agit pas de cela. Tout est mieux que tu crois, mais dis. Dis.
Je te prie que tu ne m'interroges plus.
Non, il le faut cependant. Mère. Mère, mon frère. Oh, ma nourrice aux côtes cuirassées. Il n'a pas été permis que je meure ainsi désespéré. Et maintenant, je suis au-dessus de la douleur. Il n'a plus rien de moi. Tête d'or.
Quoi, petit frère?
Prends-moi dans tes bras. Et mets-moi sur ton épaule comme une brassée de feuillage, car je ne tiens plus à rien, je suis comme une branche coupée. Toute peine est passée. Le rêve est rompu, je suis libre. C'est la joie qui est dans la dernière heure.
Cet extrait de Tête d'or, on peut le retrouver dans le coffret qui a été édité par Radio France tout dernièrement sur Laurent Terzieff, sur notre site, le livre de Jean-Pierre Siméon, les autres publications sur Laurent Terzieff. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Gilles Gaillard et Frédéric Boeuf, préparée par Camille Poux-Jalaguier, Frédéric Martin, Franck Olivard. Demain, l'Ukraine de Staline à Hitler.